carnet de campagne, bonjour. On n'arrête pas le progrès. C'est peu surprenant, mais cette vieille formule est définitivement fanée. Je l'ai encore dans les oreilles de mon enfance. Remettons-la donc au goût du jour pour tenter d'interroger notre avenir aujourd'hui. On n'arrête donc pas le progrès. Dernier exemple en date, ou presque, puisqu'il a été annoncé début janvier, bientôt des entreprises à mission en France. Les ministères de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de l'Économie, du Travail, associaient leur voix en ce début d'année pour lancer ce qui pourrait ressembler à une nouvelle génération d'entreprises. Il y avait avant, d'abord, les grosses cylindrées aux lourds capitaux, cotées ou pas. Il y eut ensuite nos modestes structures de l'économie sociale, les solidaires, souvent à but non lucratif, celles que l'on rencontre quotidiennement dans les carnets de campagne. Il pourrait, s'il faut parler au conditionnel, puisqu'un rapport devrait être rendu dans quelques jours, il pourrait donc y avoir une troisième voie entre le lucratif et le social sous le nom d'entreprise à mission. Une inutile couche supplémentaire, penserez-vous, ou alors une piste à explorer pour comprendre cette orientation. La déclaration de Nicolas Hulot à la présentation de ce projet résumait ainsi l'esprit qui devrait traverser ces entreprises à mission. L'entreprise ne saurait se résumer à la recherche du profit sans considération pour les femmes et les hommes qui y travaillent et sans regard sur les désordres environnementaux. Fin de citation. On ne peut être que d'accord avec cette vision. Encore faut-il savoir si cet assouplissement qui emprunte beaucoup plus aux entreprises sociales et solidaires ne va pas à nouveau se faire au détriment de celle-ci. Autrement dit, on prend le meilleur de l'ESS pour modifier la garde-robe des entreprises traditionnelles. Cette troisième voie s'inscrirait elle-même dans une loi pacte dont on devrait connaître les grandes lignes en avril. D'ici là, jeudi prochain au plus tôt, un rapport sera rendu sur ces fameuses entreprises de troisième génération, entreprises dites donc à mission. Pour anticiper et ne pas subir l'information le jour où elle sera rendue publique, nous avons proposé à Hugues Sibyl de nous donner quelques explications sur cette nouvelle orientation et ses éventuelles conséquences.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Hugues Sibyl, bonjour.
Bonjour Philippe.
Hugues, président du labo de l'ESS, si vous voulez avoir des informations, il y a un focus que vous pouvez aller chercher sur le site lelabo-ess.org. Il y a des fiches thématiques de l'actualité et les éditos d'Hugues Sibyl. Aujourd'hui, on va s'intéresser, c'est pas nouveau, mais à cette appellation qui suit en ce moment une évolution d'entreprise à utilité sociale ou entreprise à but social, et en particulier Nicole Nota, présidente de Vigeo, qui est l'agence française d'analyse des entreprises sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui est en train de se mettre en quête des responsabilités. Alors on n'est plus dans la responsabilité uniquement sociale et environnementale, mais une responsabilité plus importante et plus codifiée des entreprises.
En fait, le gouvernement a ouvert le sujet de l'entreprise. Il y a plusieurs aspects d'ailleurs dans cette réflexion. Il y a l'éventuelle réforme du code civil pour montrer que l'entreprise n'a pas que le profit pour but. Il y a l'idée de travailler sur des fondations actionnaires, donc pour faire en sorte que le capital soit protégé. Et puis il y a cette idée d'introduire en France quelque chose qui existe à l'étranger, qui s'appelle des entreprises à mission ou des sociétés à objet social élargi, qui consiste à dire que au-delà de son activité, ses produits, ses services, l'entreprise inscrit dans ses statuts une finalité sociale ou environnementale. L'idée, pour l'instant, qui n'est pas aboutie, hein, c'est quelque chose qui est en réflexion, serait que ça soit mieux protégé s'il y a des changements d'actionnaires, s'il y a des mutations dans l'entreprise, si on s'est dit, ben, à côté de notre activité industrielle, on a par exemple une activité d'insertion, que cette activité soit protégée et inscrite durablement dans les statuts. On ne sait pas encore quelle forme ça prendra à la sortie de l'étude qui est faite actuellement par la mission de Nicole Nota.
Ouais. Hugues, la RSE, donc la responsabilité sociale environnementale, c'est un écran de fumée, ça, non? Oh, ça, est-ce que c'est vraiment sérieux?
C'est des formules. Non, je crois qu'il
ça
faut.
Quel effet non, sur les hommes qui travaillent dans une entreprise?
Je me méfie des jugements trop globalisants. En fait, la responsabilité sociale et environnementale, puisque de plus en plus on dit les deux, je crois qu'il faut regarder de manière très variable selon les entreprises. Il y a des entreprises où c'est authentique, où il y a une vraie volonté des dirigeants de l'entreprise de faire de la RSE, et puis il y en a où c'est ce qu'on appelle du greenwashing ou du social washing. De toute façon, le fait qu'on essaye de rendre les entreprises plus vertueuses, moi j'y suis favorable. Je ne fais pas de procès d'intention. Par contre, ça vaut le coup d'aller regarder après, quand on nous dit RSE, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière. Et là, ben, on découvrira qu'il y a des choses assez variables selon les entreprises.
Alors, ça a quel devenir une entreprise à mission, c'est
alors,
ça ?
En fait, ça s'est développé dans un certain nombre de pays, en particulier aux États-Unis, sous le nom de Benefit Corporation. En fait, c'est petit à petit, il y a des gens qui se rendent compte que, finalement, l'entreprise, bon, elle est mono-objectif, qui est de faire du profit et de le distribuer à l'actionnaire. Mmh. Et que, bon, bah, finalement, c'est pas si motivant que ça, que c'est un peu court, et puis que, bah, il y a d'autres choses que fait l'entreprise. Donc, c'est d'essayer d'introduire cette dimension-là. Nous, tenant de l'économie sociale et solidaire, notre message, c'est de dire, mais les gens qui font de la vraie utilité sociale, c'est ce que nous inventons, nous, depuis des années, à travers nos entreprises sociales et solidaires.
Et donc, pourquoi
donc on les défend en priorité.
Oui. Mais pourquoi alors aller s'inquiéter, comme le fait Nicole Nota, tant mieux, mais des grandes entreprises qui sortent de l'ESS.
C'est pas forcément des grandes entreprises. Ce statut de société à objet social élargi, ça pourra concerner des entreprises familiales, des PME, etc., tous ceux qui ont envie de le faire. Disons que c'est pour des entreprises classiques qui ne deviendront jamais des coopératives ou des associations, des mutuelles, mais qui ont une fibre, voilà, et qui voudraient faire que leur fibre sociale, les problèmes de handicap, des problèmes qui tiennent au cœur de l'entreprise, eh bien, ils puissent le mettre en pratique de manière mieux protégée juridiquement, ça n'est le cas aujourd'hui. Mais à mon avis, ça aura des effets limités, puisque finalement, c'est une démarche volontariste, c'est un petit peu comme la RSE, c'est vrai, c'est-à-dire, je veux ou je veux pas, mais finalement, je sais pas quel type de contrôle il y aura pour savoir si on est vraiment à objet social élargi.
C'est pas très encourageant, ça. Parce que ça veut dire, si c'est du volontariat, on va avoir assez peu de candidats.
Oui, mais c'est... En même temps, il faut toujours reposer sur... On parle beaucoup d'engagement. Moi, je crois à l'engagement. Donc, s'il y a des entreprises qui s'engagent, franchement, je trouve que c'est bien. Donc, le fait de dire, ceux qui veulent le faire, on va les aider, on va les encourager, on va leur faciliter la vie, je trouve ça bien. Maintenant, qu'est-ce que ça produira comme effet ? C'est ça la différence qu'il y a entre ce que je défends, moi, l'économie sociale et solidaire, c'est que dans ces entreprises-là, la logique du profit restera quand même première. On rajoute un objectif, tant mieux. Plus les entreprises sont vertueuses, c'est mieux. Mais n'empêche que la logique du profit est extrêmement forte et prégnante.
Hugues Sibille, président du Labo de l'ESS, invité des carnets de campagne pour cette émission orientée autour du rôle social de l'entreprise avec le modèle américain, qui est un label qui permet à certaines entreprises, donc version française des entreprises à mission, de sortir du seul créneau lucratif pour trouver une troisième voie, en fait. C'est, on entre non lucratif et le système classique.
Ça peut être considéré comme une voie intermédiaire. Mmh. Un des problèmes sur lesquels nous souhaitons être vigilants, c'est que il existe en France aujourd'hui un agrément d'entreprise solidaire d'utilité sociale, ESUS. Mmh. Certains de vos auditeurs qui connaissent bien ça, parce que ils sont dans notre hiver, voient de quoi je parle.
Souvent, je dis d'où ESUS.
D'où ESUS. Donc, il faut faire attention à ce qu'on ne crée pas des éléments nouveaux qui créent de la confusion. C'est-à-dire qu'à la fin, on ne sache plus très bien,
absolument,
le paysage soit obscurci. On a un paysage qui est maintenant à peu près clair, et donc il faut faire attention que si des choses nouvelles se mettent en place, ça ne se traduise pas par le fait que localement, les experts comptables, les banquiers, tous les gens qui travaillent avec cet univers-là, disent on n'y comprend plus rien. Donc on est aussi vigilant à ce qu'il reste une certaine clarté. Et puis attention à ne pas créer trop de statuts juridiques nouveaux. Si je prends mon univers d'économie sociale et solidaire, il y a déjà 7 statuts de fondation différentes, il y a des associations, différents types de coopératives, enfin, il y a déjà une belle panoplie juridique, donc attention à rester simple et à ne pas trop compliquer le système.
Oui. Je parlais de la RSE et on parlait de la RSE il y a un instant, Hugues, je fais référence à un article paru il y a quelque temps, récemment d'ailleurs, dans Les Échos sur ce rôle social d'entreprise avec le fameux statut de Benefit Corporation qui existe aux États-Unis et qui est en vigueur dans 35 États, qui a été créé il y a une dizaine d'années, qui pourrait donner donc une nouvelle perspective d'orientation aux entreprises plus proches des valeurs humaines, sociales et environnementales aussi. Et cet article souligne des limites. Alors, on parlait de la RSE, il y a aussi ces entreprises qui ont créé une fondation plutôt philanthropique qui ne modifie pas le fonctionnement et la conception du mode de travail et du mode de production lucratif.
La fondation philanthropique, en fait, c'est une entreprise qui gagne de l'argent et qui met dans la fondation les profits qu'elle a réalisés et qui, à partir de ça, peut faire de la philanthropie. Ça change pas le fonctionnement d'entreprise. Mmh. Le gouvernement réfléchit à l'heure actuelle sur des fondations actionnaires. Il y en a beaucoup en Allemagne et en Hollande. Donc, au lieu que le capital appartienne à des gens qui sont à la bourse ou d'autres sociétés, c'est une fondation qui détient une partie du capital. Et donc, du coup, c'est à vocation à protéger le capital pour éviter des OPA, pour éviter que on puisse se retrouver un matin avec des actionnaires hostiles. Là, ça peut modifier relativement le paysage. Mais moi, sur le fond, mon idée, c'est aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, ça représente environ 10% du PNB en France. Je souhaite que ça augmente. Donc, tout ce qui peut faire en sorte que d'autres entreprises viennent et reprennent les valeurs que nous défendons depuis longtemps de l'économie sociale et solidaire, tant mieux, on est favorable. Mais à condition que ce ne soit pas effectivement que de la com et ou des choses qui ne sont pas vérifiables d'un point de vue un peu factuel et concret. Donc ça posera le problème de si on a ces nouvelles formes de société, comment on va évaluer ce qu'elles font, de quels outils on disposera pour que elles rendent compte de ce qu'elles ont mis dans leur statut. Voilà, je veux m'occuper d'insertion. Ok, montrez-nous ce que vous avez fait concrètement, comment vous avez géré vos emplois, comment vous avez géré vos licenciements, comment vous avez inséré les employés qui sont chez vous, et qu'on puisse du coup se faire une véritable opinion.
Si on, comment on va garantir sur la durée cette éthique-là d'une entreprise qui va épouser ce principe d'entreprise à mission? Parce qu'elle peut accepter le cadre et puis en sortir au bout de quelques temps.
Oui, alors pour
l'instant, il faut un gendarme en quelque sorte.
Pour l'instant, pour la partie française, ça n'est pas connu la manière dont tout ça sera contrôlé. On ne le sait pas. Donc ça va être quelque chose à regarder. Je pense qu'on va s'orienter sans doute vers des systèmes de labels avec une autorité qui contrôlera que l'entreprise qui a bénéficié de ce label respecte bien un certain nombre de choses. Mais c'est encore pour l'instant un peu nébuleux, mais ça nécessitera, pour être crédible, effectivement, qu'il y ait des outils de reddition de comptes qui permettent de suivre l'engagement social ou environnemental d'une entreprise classique, aujourd'hui, qui continuera à se penser comme entreprise classique, mais qui aura une forme de volontarisme dans le champ social ou environnemental.
Et Nicole Notta va rendre sa copie cette année?
Elle la rend dans pas longtemps, puisqu'elle la rend début mars, et que les propositions qu'elle fera devraient avoir des débouchés dans la loi Pacte que le gouvernement est en train de préparer.
Merci Hugues Sibyl. Je rappelle le site, hein, c'est le labo trait-d'union-ess.org.
Merci Philippe.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Voilà, j'espère que ces quelques échanges en langage direct sans langue de bois vous aideront à mieux comprendre les projets mis en chantier dans le cadre de la loi Pacte. Pacte, c'est plan pour la croissance et la transformation des entreprises, d'autant que nous n'avons pas présenté l'ensemble des statuts existants pour les sociétés ou ceux qui se préparent, car outre les entreprises à mission, Hugues Sibyl a rappelé qu'il existait des modèles comme depuis la loi de l'ESS de 2014 dans le champ de l'économie sociale et solidaire, l'agrément ESUS, entreprise solidaire à utilité sociale. À peu près 1000 entreprises jusqu'à présent l'ont demandé et en ont bénéficié, c'est encore peu, ou comme les fondations actionnaires, mais nous n'avons pas développer les SOSE, S-O-S-E, les sociétés à objet social étendu, si j'ose le dire, modèle testé actuellement en France par la CAMIF, qui donne le choix à l'entreprise de prendre librement option vers une mission. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à l'entreprise à mission, justement. Nous n'avons pas rappelé non plus les expériences au début des années 2000 du social business, qui donnait la priorité à la finalité sociale sur la finalité lucrative, formule qui était remplacée par l'inclusive business, pardon hein, pour la langue, qui cette fois réintroduit de la rentabilité. Ben voyons, on va s'y perdre, et après ce petit tour d'horizon, je vous laisse digérer l'empilage de formulation. Comme aurait dit Muriel Robin, tu peux me rappeler où est la cuisine. Nous, on va revenir dans le Var avec le jeu des 1000 euros, Nicolas Stoufflet, à Pierrefeu du Var.